Écosystème, Florence Farion.
Demain, c'est la fête des mères. Vous avez sans doute pensé à des cadeaux, colliers de nouilles. Non, je rigole, ça c'est du passé. Des fleurs, des chocolats, une friteuse. Je vous épargne l'inventaire des possibles. Parce qu'aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur une possibilité magique. Et je pèse mes mots, le parfum. Le parfum, c'est intime, c'est unique, ça fait toujours plaisir, à condition de ne pas se tromper. Ah oui, petit avertissement, on ne s'aventure pas dans une fragrance qu'elle ne connaît pas. C'est la quasi-garantie du fiasco. Oui, parce que un parfum, c'est personnel. Si on lui offre un parfum, c'est son parfum. Celui qui a, vous savez, accompagné votre enfant, celui qui embaumait la salle de bain après son passage, celui qui vous rattrapait quand vous lui chipiez un foulard. Une maman, ça a toujours une odeur bien à elle. Et aujourd'hui, on va parler de parfum, parler de l'intime, parler de mémoire, de souvenirs, car il y a tout ça et bien d'autres choses dans ces petits flacons. Bonjour et soyez les bienvenus dans cette rencontre qui va vous mener par le bout du nez. Je ne sais pas si elle est fidèle à un flacon en particulier ou si elle vagabonde d'odeur de parfum en parfum. En tout cas, notre invitée est fidèle à son sujet. Elle ne le quitte pas depuis les années 80. Elle a ausculté le parfum sous toutes ses coutures. Bonjour Annick Le Guerrer.
Bonjour.
Vous êtes historienne, anthropologue, chercheuse, spécialiste du domaine des odeurs, des senteurs, des parfums, en Orient, en Occident, dans le monde du sacré, du séculier, de l'Antiquité à nos jours. Ça vous fait un sacré curriculum vitae, Annick Le Guerrer.
Eh bien, écoutez, ce qui me frappe en vous entendant, c'est votre voix. Le dernier livre, et c'est celui pour lequel je suis d'abord venue ici, « Le parfum et la voix, une rencontre inattendue », s'intéresse au lien que le parfum tisse avec la voix. Et votre voix me fait penser à un parfum boisé. Vous avez une voix assez grave, une voix boisée, florale boisée. Mais si on parle du parfum sous tous ses aspects, ça me va encore mieux.
Oui, on va parler du parfum sous tous ses aspects et parler de cette rencontre inattendue en fait avec Bruno Fourne, avec qui vous avez coécrit le livre, qui lui est un spécialiste, un amateur, un amoureux des voix. Et l'écoute de votre voix en fait l'a amené à imaginer une odeur. C'est ce qu'on appelle de la synesthésie. En fait, c'est le lien entre plusieurs sens.
La synesthésie, ça vient du grec as, avec, et esthésie, sensation, et c'est le croisement de plusieurs sens, de plusieurs sensations. Et c'est un phénomène qui a été très peu étudié, mais depuis les années 2019, les travaux se développent. Et ce phénomène de synesthésie était un petit peu connu en ce qui concerne l'audition colorée, mais en ce qui concerne les liens de l'odorat et de l'olfactif, il n'y avait pas de travaux, à part ceux d'un parfumeur chimiste anglais qui s'appelle Septimus Piès en 1855. Vous voyez, donc c'était un précurseur, mais les véritables travaux sur la synesthésie audio-olfactive ont commencé en 2010, en fait. Mais ce qui est le plus impressionnant dans ces liens entre olfaction et odorat, c'est ce qui a été découvert en 2019 par des chercheurs américains et suédois qui travaillent avec l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Et ils ont soumis un panel de volontaires à l'émission successive de noms d'odeurs, puis à la diffusion d'odeurs. Et ils ont pu observer, ces chercheurs, que les neurones olfactifs étaient activés lors de la prononciation des noms d'odeurs avant même la diffusion des odeurs. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire parce qu'on voit vraiment ces liens très très forts entre l'odorat et l'audition, et liens, je le rappelle, qui commencent seulement maintenant à être étudiés. Parce que l'odorat a été longtemps considéré comme un sens inférieur, animal, trop lié à la sexualité, sans langage, et les travaux sur l'odorat par les scientifiques était mis de côté. Et il a fallu attendre en fait 2003 pour que les scientifiques commencent véritablement à s'intéresser à l'odorat. J'ai fait partie des premiers chercheurs qui ont voulu sortir l'odorat de l'injuste mépris dans lequel il était tenu. Et aujourd'hui, il y a un complet renversement des choses. L'odorat est complètement réhabilité. Les travaux scientifiques sur l'odorat, les thèses, les expositions abondent. Mais lorsque j'ai soutenu ma thèse en 1988 sur l'olfactif, c'était un sujet encore qui était vu de travers. C'était un sujet qui n'était pas intéressant, vous voyez.
Si on en reste à Nick Le Guérin, à cette notion de synesthésie, en fait, cette capacité qu'a Bruno Fourne, quand il entend des voix, finalement, il sent des odeurs, est-ce qu'on peut appeler ça un talent particulier ou est-ce que c'est, tout le monde peut être concerné par cette capacité?
C'est un talent quand même particulier parce que si on est tous à la naissance synesthète, cette synesthésie s'efface avec le temps. Mais Bruno Fourne, les passages entre les différents sens fonctionnent encore, vous voyez. C'est la synesthésie naturelle, il est resté synesthète. Et le nombre de synesthètes est évalué entre 1% et 4%. Donc ils sont peu nombreux.
Si on en reste à cette idée en fait de parfum de la voix finalement, est-ce qu'il y a des voix qui sentent mauvais, Annick Le Guérin?
Eh bien écoutez, d'après la littérature, il y a des voix qui sentent mauvais. Marguerite de Navarre parlait des voix qui puent. Et Roland Barthes s'est intéressé aux voix qui sentent mauvais, notamment à celle d'Hitler. Les phoniatres aussi. Le phoniatre Jean Habitbol s'est intéressé aux voix qui sentent mauvais. Les belles voix sont toujours associées aux belles odeurs et les mauvaises aux mauvaises odeurs. Ce n'est pas par hasard si dans les textes religieux, les dieux ont toujours des voix qui sentent bon. La voix de Zeus, dans les textes grecs, sent la rose, l'ambroisie. La voix de Bouddha sent le santal. La voix du Christ, d'après les textes religieux, sent très bon.
Est-ce qu'il y a une universalité de l'appréciation des odeurs? J'entends par là, est-ce que, étant donné évidemment vos recherches très nombreuses, est-ce que vous avez pu percevoir que en Occident, en Asie, ou enfin dans les différents coins du monde, l'appréciation des odeurs varie?
Écoutez, d'une façon générale, même s'il y a quand même des variations, d'une façon générale, la bonne odeur est liée au floral, aux odeurs de vie, et la mauvaise odeur est liée à la putritude, à la mort. On trouve dans certaines civilisations des odeurs putrides qui sont liées aux ancêtres, qui ne sont pas forcément des êtres malveillants. Mais d'une façon générale, la putritude, l'odeur putride est du côté de la mort et du côté de la mauvaise odeur. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir que le nouveau-né, très tôt, est attiré par des odeurs de vanille et il détourne son nez des odeurs sulfureuses, des odeurs qui sentent le soufre.
Avec cette particularité, c'est que contrairement aux yeux, on ne peut pas fermer les paupières de son nez. C'est-à-dire que les odeurs, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, bon, on peut toujours se boucher le nez, mais je veux dire, il y a quand même quelque chose qui nous arrive très très vite.
Exactement. Et d'ailleurs, l'odorat et nos oreilles ont ce point commun. Ils n'ont pas de paupières. Ils sont obligés de subir les sons et les odeurs qui les assaillent sans pouvoir se fermer. C'est un de leurs points communs, en effet.
Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement à travers votre dernier ouvrage, Le Parfum et la Voix, coécrit, je le disais, avec Bruno Fourne et paru aux éditions Odile Jacob, non seulement vous avez étudié la voix, mais vous aviez, vous, déjà étudié le lien entre la musique et le parfum.
Ces liens, oui, j'y travaillais depuis une vingtaine d'années. Ces liens sont très très importants, mais ce qui est tout à fait nouveau dans ce livre, c'est les liens du parfum avec la voix, parce que ça n'avait jamais été fait, ça. Mais la voix, c'est le plus bel instrument de musique, disent certains musiciens.
Est-ce que ça voudrait dire, Annick Le Guerrier, que quand on va assister à un concert, si des odeurs nous sont proposées dans la salle de concert, on va du coup vivre la musique avec encore plus d'intensité?
Bien sûr, et d'ailleurs ça a déjà été fait au Festival de Lucerne en 2003, lors de la diffusion d'un concert de Rimsky-Korsakov. Il y avait des émissions d'odeurs d'encens, de myrrhe, d'odeurs orientales, vous voyez, qui accompagnaient cette musique. Ces odeurs étaient en osmose avec la musique de Rimsky-Korsakov.
Et ce qui est drôle aussi, c'est que vous soulignez finalement que le vocabulaire du domaine du parfum s'apparente aussi à la musique. C'est-à-dire que l'aîné travaille sur des accords, il compose avec des orgues à parfum à partir de notes. Donc la similitude existe. Hein.
Harmonie musicale et olfactive se complètent complètement, oui.
On est ensemble pour une heure, Annick Le Guerrier, pour parler de cet univers formidable du parfum. Le parfum et la voix, c'est votre dernier ouvrage paru chez Odile Jacob. Il y en a d'autres qui sont devenus de grands classiques, Les pouvoirs de l'odeur et Le parfum des origines à nos jours. Les trois sont parus donc chez Odile Jacob. Nous allons avoir de la musique, nous en parlons, mais nous allons aussi écouter de la musique. Je ne sais pas quelle odeur avait Serge Gainsbourg, mais en tout cas, on va entendre sa voix avec ce titre Initials BB. À tout de suite pour la suite d'Égosystème.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. En haut des cuisses, elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de germain dans les cheveux. Clochette d'argent de ses paniers, agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot.
Initials.
Nous poursuivons cet écosystème aujourd'hui dans l'univers des parfums. On est parti de la fête des mères et puis on est arrivé à toutes sortes de choses, aux études qui nous mènent à constater ce côté synesthète de liaison entre les voix, entre la musique et entre les parfums. Est-ce que cette voix de Gainsbourg, d'ailleurs Annick Le Guerrer, vous qui êtes historienne, anthropologue et toutes ces choses et vraiment spécialiste du parfum, elle vous a évoqué quelque chose, cette voix de Gainsbourg? Vous aviez une odeur en l'écoutant?
Elle a quelque chose de terreux, de très très grave. Pour la restituer, je pense que les parfumeurs feraient appel au vétiver.
Mais justement, j'évoquais la fête des mères, donc demain. Cette fête des mères, on va offrir des cadeaux. Et je disais dans mon introduction, on n'offre pas un parfum sans savoir, sans consulter, parce que c'est quelque chose de tellement intime, Annick Le Guerrer. On offre le parfum que la personne porte, mais s'aventurer dans quelque chose que la personne ne connaît pas, n'a jamais porté, n'a pas essayé, c'est mission impossible.
C'est très très difficile de choisir un parfum pour une personne. Extrêmement difficile. Alors évidemment, on peut toujours se référer à sa voix, mais quelquefois, par exemple, une personne timide va vouloir compenser sa timidité par un parfum capiteux qui lui donnera davantage d'assurance. Donc un parfum qui ne correspond pas du tout à sa voix timide. Et c'est là où les choses sont complexes, parce que choisir un parfum pour une personne, il faut aussi prendre en compte ce qu'elle veut montrer aux autres à travers son parfum.
Parce que c'est ça en fait le parfum, Annick Le Guerrer, à quoi sert le parfum? Alors on pourrait expliquer historiquement, on y reviendra peut-être, sur l'origine du parfum, ce lien au Dieu, enfin ce que vous expliquez très bien, mais aujourd'hui porter un parfum, c'est quoi? C'est se démarquer, c'est dire qui je suis au nez des autres, pas aux yeux des autres, mais au nez des autres. Comment et pourquoi on se parfume encore aujourd'hui?
On se parfume pour plusieurs raisons. Celle qui intéresse la fête des mères, c'est la représentation aux autres par le parfum. Comme le dit une personne qui a créé une petite entreprise, mon parfum, c'est moi. On affiche sa personnalité, on affiche l'essence de son être par son parfum et par sa voix. Lorsque vous mettez un parfum, vous voulez montrer aux autres qui vous êtes. On se parfume aussi pour être bien, pour être protégé du monde. Et ça, ce sont les parfums cocooning, les parfums qui sont apparus à partir des années 2000 avec les crises économiques. Ils cherchent dans un parfum une sorte d'armure qui les rassure, qui les protège du monde extérieur. Et ça se développe beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis les années 2000 et ça se développe encore plus depuis le Covid. Ces parfums cocooning avec des notes sucrées, parce que le sucre rassure. Et ces parfums sucrés, il y en a des tas d'exemples aujourd'hui, ils font floresse. C'est une sorte de médicament en fait contre l'anxiété à travers le parfum.
Si je pense aux années 80, là où vous avez commencé vos recherches et votre réflexion autour du parfum, dans les années 80, c'était des parfums qui étaient extrêmement forts. Alors on pense à Opium, par exemple, d'Yves Saint Laurent, qui a vraiment marqué une sorte de tournant où il y avait une manière de s'imposer. Donc en fait, selon les époques, les tendances, les modes des parfums ont changé, ont évolué, Annick Le Guerrer.
Bien sûr, et là vous parlez des parfums des années 80. Les parfums des années 80 contenaient aussi des substances animales, le musc, le lambre, la civette, le castoreum. Donc ces parfums étaient puissants parce qu'ils avaient des notes animales et il fallait justement montrer au monde qui on était. Mais comme je vous le disais, il y a eu un tournant en 2000 avec les crises économiques. Et sont apparus les parfums qui sentaient la vanille, la fraise, la tarte aux pommes, parce que c'était des parfums sucrés qui rassuraient.
Donc ça veut dire que les nés, les créateurs, sont en osmose avec le monde. On ne peut pas créer depuis sa grotte sans être en phase et connecté au monde, Annick Le Guerrer.
C'était le cas avant, mais aujourd'hui les parfumeurs travaillent avec des évaluateurs qui analyse les tendances du marché, qui analyse les besoins des consommateurs. Depuis l'arrivée du marketing dans les années 70, les créateurs travaillent avec des gens du marketing qui leur demandent de créer des parfums qui correspondent aux attentes des consommateurs. Ça, ça a tout changé. Lorsque Jacques Guerlain crée au début du XXe siècle des parfums, il n'y avait pas de marketing. Il créait ce qui lui passait par la tête. Par exemple, lorsqu'il crée « Voilà pourquoi j'aimais Rosine », il crée ce parfum à partir de la voix de Sarah Bernhardt, qui était appelée par Victor Hugo « La voix d'or ». Donc là, il n'y avait pas des gens du marketing qui lui disaient « Il faut que tu fasses tel parfum parce que les consommateurs attendent tel type de parfum ». Mais tout a changé dans les années 70. Et le premier parfum en France qui a été lancé avec le marketing, c'est justement Opium, où on voyait Yves Saint Laurent qui présentait Opium dans une pose assez alanguie. Le premier parfum marketing aux États-Unis, c'est Charlie. Et on voit que c'est un parfum qui doit correspondre à la femme jeune, active, qui travaille, et on voit une jeune femme en pantalon, en veste pantalon, comme un homme en fait. C'est une femme active qui concurrence les hommes, et son parfum s'appelle Charlie.
Mais justement, vous parlez de ces parfums, fidélité ou pas fidélité, Annick Le Guerrier? Parce que je me posais la question de savoir si ça dit quelque chose. Est-ce que ça a été étudié? Est-ce que ça dit quelque chose de notre personnalité, cette fidélité à notre parfum?
La fidélité au parfum, elle peut être très très grande. Si vous avez de bonnes relations avec votre mère, vous aurez tendance à porter le même parfum qu'elle et à le garder toute votre vie. Même si vous achetez d'autres parfums, vous pouvez avoir une garde-robe de parfums et toujours avoir dans votre salle de bain le parfum que portait votre mère, que vous mettez de temps en temps. Il y a même un parfumeur qui est décédé, qui s'appelait Jean-François Laporte, qui m'avait raconté qu'il avait eu un jour la visite d'une femme qui avait perdu son mari et qui lui demandait de lui recomposer le parfum que lui avait offert son mari pour leur fiançailles et qu'elle ne trouvait plus sur le marché, parce que la perte de son mari pouvait être adoucie par la présence de ce parfum qui lui rappelait son mari. D'ailleurs, c'est ce que disait la grande écrivaine olfactive George Sand. Elle disait « L'affection d'un absent n'est plus qu'un parfum. » On peut être fidèle à un parfum à travers l'affection qu'on a pour un être. Très, très, très fort, ça.
On va parler du pouvoir de l'odeur, on va parler justement de ce lien, l'affectif, comment ça marche, finalement, cette mémoire olfactive, la Madeleine de Proust et autres. On va écouter d'abord 21 Pilots sur la première, avant de vous retrouver. Annick Le Guerrier, vous êtes donc cette grande amoureuse et spécialiste du parfum, et vous avez coécrit avec Bruno Fourne, le dernier s'appelle « Le parfum et la voix », paru chez Odile Jacob. On se retrouve dans quelques minutes. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you. Outsiders very well.
They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. I'm not letting you fall yourself. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. Just to stay away. And now they're outside ready to buzz. It looks like you might be one of us.
Nous parlons aujourd'hui des parfums, nous parlons de l'évocation des odeurs. On a commencé à parler avec vous, Annick Le Guerrier. Je rappelle que vous êtes historienne, anthropologue, chercheuse et spécialiste dans ce domaine des odeurs, des parfums, des senteurs. Pourquoi ça nous parle si fort? On parlait du lien avec la voix, mais il y a aussi un lien très fort à l'affect, à l'intime dans le parfum.
Eh bien, les premières sensations qu'a le fœtus, c'est celle de l'odeur et de la voix de sa mère. Avant de voir sa mère, il la sent, il l'entend. Et donc, c'est en ça aussi que la voix et le parfum sont essentiels. Et la première relation à sa mère, lorsque l'enfant naît, c'est une relation olfactive. Il reconnaît l'odeur du sein, du cou de sa mère, avant même de la voir. Et c'est en ça que c'est essentiel pour le développement affectif et cognitif du nourrisson. Lorsque les prématurés sont séparés de leur mère à l'hôpital pour cause de soins, il est conseillé de laisser un linge avec le parfum de la mère auprès du nourrisson, parce que ça le rassure.
Oui, parce que quand on parle du parfum de la mère, on parle évidemment de ce petit flacon, mais on parle aussi de l'odeur, parce que chacune, chacun a sa propre odeur, Annick Le Guerrier.
Bien sûr, l'odeur, notre odeur sui generis, comme notre voix, ce sont des signes d'identité. Ça correspond à l'essence de notre être. Et cette odeur est différente parce qu'elle dépend de nos gènes, de notre alimentation, de notre activité, de notre âge, de notre sexe. Et cette odeur sui generis, c'est une signature. Chez les animaux, ça fonctionne de la même façon. Les mères reconnaissent leurs petits à leur odeur, à leur cri. Ou si vous badigeonnez une fourmi de l'odeur d'une espèce étrangère, elle sera repoussée par les fourmis de son espèce. Donc l'odeur est un signe d'identité essentiel.
Comment se passe le lien avec la mémoire? Alors on connaît tous l'histoire de la petite Madeleine de Proust, un jour d'hiver qu'il trempe dans une tasse de tisane, son odeur qui fait ressurgir voilà ses souvenirs, ses vacances chez sa tante Léonie quand il était enfant. Comment ça marche? Ça veut dire que on a dans notre cerveau quelque part une sorte de bibliothèque à souvenirs associés aux odeurs, Annick Le Guerrier.
Bien, les odeurs font ressurgir de façon immédiate et très très sensuelle, très vivante, les souvenirs. Vous parliez de Proust, on peut parler aussi de George Sand qui, lorsqu'elle était séparée de son grand amour Alfred de Musset, lui demande d'aller lui chercher rue Sainte-Anne à Paris, chez un parfumeur qui a disparu mais qui s'appelait à l'époque Lubin, un parfum au patchouli qu'elle portait du temps de leur amour. Elle lui dit « Ce parfum représente en fait ton être, ce que j'ai vécu avec toi, voyez. Et l'affection d'un absent n'est plus qu'un parfum. Et on voit bien justement ce formidable pouvoir du parfum. Il ressuscite les souvenirs et quand elle reçoit ce parfum, elle peut le faire ressurgir dans son cœur de façon complète grâce aux odeurs.
Je pense que vous ne direz pas le contraire, mais est-ce qu'on peut dire que, Annick Le Guerrer, l'odorat est le sens le plus subtil et le seul qui est vraiment finalement en lien, sans filtre avec notre cerveau?
Vous avez tout à fait raison, parce que l'odorat est lié aux zones du cerveau qui sont impliquées dans la mémoire, d'où le pouvoir des odeurs sur la mémoire et dans les émotions. Les sensations olfactives arrivent dans la partie la plus ancienne du cerveau, le rhinencéphale, et l'odorat est un sens très subtil, c'est le sens de l'intuition, de l'affect. Je peux pas le sentir, je peux pas le blairer. Il a le nez creux, bien sentir les choses. C'est un sens de la connaissance intuitive, donc c'est un sens très subtil. C'est ce que disait d'ailleurs le philosophe Nietzsche, qui s'insurgeait du mépris dans lequel était tenu l'odorat par ses collègues philosophes et lui disait « Tout mon génie est dans mes narines » parce que ça lui permettait, disait-il, de sonder les cœurs et les âmes sans passer par la raison. Donc c'est un sens très fiable parce que l'odorat nous met en contact de façon directe et fusionnelle avec les êtres et le monde. Sans passer par la raison. C'est d'ailleurs aussi, là c'est plus gênant, une des raisons pour lesquelles, si vous n'aimez pas l'odeur de quelqu'un, vous pouvez le trouver très intelligent, très beau, très charmant, si vous n'aimez pas son odeur, vous ne pourrez jamais aller plus loin avec lui. Et c'est ce que disait encore la psychanalyste Françoise Dolto, qu'il fallait demander aux gens qui désiraient vivre ensemble « Est-ce que vos odeurs s'accordent ?» Ça montre bien l'importance des odeurs dans la communication et la subtilité de l'odorat dans nos attirances. Parce que si l'odeur de la personne qui vous attire ne vous convient pas, vous vous en détournerez.
Dans cette idée que les odeurs reviennent et qu'on s'intéresse de plus en plus aux odeurs, il y a aussi tout le volet thérapeutique, justement, qui est utilisé. Des études qui montrent que les odeurs ont des influences sur le système nerveux, le moral, le sommeil, les angoisses, les nausées, l'appétit. On appelle ça de l'olfactothérapie ou de l'aromathérapie, Annick Le Guerrer?
On appelle ça l'aromathérapie. Et en effet, on parlait tout à l'heure de la mémoire, mais les parfums sont utilisés aussi pour permettre aux personnes qui développent la maladie d'Alzheimer de freiner l'évolution de la maladie. Parce que les parfums vont, lorsqu'on leur fait sortir certains parfums, ça réveille en elles des souvenirs. Elles retrouvent accès à des parties de leur vie qu'elles avaient oubliées. Et ça se développe de plus en plus, cette olfactothérapie ou aromathérapie. On a vu aussi l'utilisation des odeurs et des parfums à l'hôpital de Garches pour permettre aux gens qui étaient tombés dans le coma et qui avaient perdu l'usage des mots de retrouver les mots en leur faisant respirer des odeurs qui provoquent chez elles ce qu'on appelle un choc olfactif, c'est-à-dire une émotion qui va leur permettre de retrouver le mot. Et il y a des olfactothérapeutes qui travaillent à cela, à rendre la mémoire des mots chez les personnes qui ont des troubles du langage suite à un coma ou un traumatisme important. Il y a beaucoup de recherches qui se développent en ce moment sur ces thèmes-là, oui, aux États-Unis notamment.
Alors après, c'est le marketing olfactif justement, qui va aussi tirer finalement sur la même corde. Alors ça n'a rien de thérapeutique, c'est vraiment comme on le dit, pour nous encourager, et là le truc le plus classique évidemment auquel on pense, c'est la bonne odeur de croissant quand on rentre dans le centre commercial, et qui va nous donner envie d'acheter du pain, un croissant, etc. Donc on tire aussi sur le côté commerçant de l'affaire avec tout ça.
En effet, sentir une odeur de croissant ne vous fera peut-être pas acheter tout de suite le croissant, mais vous fera approcher du magasin et y rester plus longtemps. Et on finit par acheter quelque chose. Il y a une force d'appel dans le marketing olfactif. Il s'en sert pour stimuler, appeler le consommateur, s'intéresser à un objet et à l'acheter.
Se faire mener par le bout du nez, ni plus ni moins.
D'ailleurs, ça a été très loin, cette tentative de stimulation et de manipulation même, puisque dans les années 80 au Japon, les employés de l'entreprise Kajima Corporation avaient été soumis le matin à des odeurs citronnées pour les réveiller, un peu plus tard à des odeurs boisées pour favoriser leur concentration. Vous voyez, il y avait là encore des tentatives de manipulation. Mais ces tentatives de manipulation par les odeurs, on doit quand même rester prudent, parce que les odeurs ne peuvent pas quand même avoir chez tous les individus le même pouvoir d'attraction. Si vous n'aimez pas l'odeur des croissants, vous ne serez jamais attiré. C'est subjectif. Une odeur de lavande n'attire pas forcément une personne qui a le souvenir de sa grand-mère malade à l'hôpital avec une eau de Cologne à la lavande. Donc ça dépend aussi du vécu de chacun, parce que les odeurs sont en rapport avec le vécu de chacun.
Il faut raison garder, voilà ce que vous nous dites, Annick Le Guerrier.
Mais le marketing quand même s'intéresse aux odeurs qui en général attirent le consommateur à tel moment de l'évolution de la société, ça c'est sûr. Et ils font des recherches dans ce sens.
Annick Le Guerrier, je rappelle que vous êtes avec Bruno Fourne, l'auteur de cet essai qui vient de paraître chez Odile Jacob, Le Parfum et la Voix, cette association dont on a parlé en début d'émission, et puis d'autres livres aussi, Le Pouvoir de l'Odeur, Le Parfum des Origines à nos Jours, vous l'avez entendu, le sujet est inépuisable. Il nous reste un petit peu de temps après la voix de Roger Waters sur la première, qui lui renifle les roses, Smell the Roses, en version originale. À tout de suite.
Smell the roses. Close your eyes and pray this wind don't change. There's nothing but screams in the field of dreams. Nothing but hope at the end of the road. Nothing but gold in the chimney smoke. Come on, honey, it's real money. Put your name on the bone. Here's where they bury the buts and the ifs and scratch out words like right, wrong. Wake up and smell the phosphorus. This is the room we keep a human.
Annick Le Guerrier, notre invitée, historienne, chercheuse, anthropologue, spécialiste du domaine des odeurs, des senteurs, des parfums, avec des essais, avec des études, avec cette capacité aussi à nous faire entrer dans cet univers auquel nous ne sommes pas tous forcément sensibles à égalité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le parfum, à l'origine, était là pour purifier, protéger, régénérer et même guérir, voire enchanter le cœur des dieux. Est-ce que j'ai fait un bon résumé ?
Excellent résumé. La première fonction du parfum, c'est d'être en bonne intelligence avec les puissances supérieures. Et les parfumeurs égyptiens, les premiers parfumeurs égyptiens qui étaient les prêtres, élaboraient dans l'enceinte de leur temple des parfums pour plaire aux dieux. Et il y avait donc des parfums qu'ils brûlaient, parce que le parfum vient du latin qui veut dire s'élever à travers la fumée. Le parfum qui brûlait, la fumée était odorante et s'élevait vers les cieux. Donc ça établissait une communication verticale entre les dieux et les hommes. Mais les prêtres élaboraient aussi des onguents dont ils badigeonnaient les membres des statues des dieux pour les régénérer, les restaurer, les faire revivre après le cycle de la nuit. Donc on voit bien déjà ici la fonction restauratrice, régénératrice, revivifiante du parfum qui apparaît dès l'Antiquité égyptienne.
Et pourquoi a-t-il été malmené ? Vous disiez que finalement aujourd'hui, on l'entendait avec ses vertus thérapeutiques que l'on a évoquées, le marketing olfactif, enfin ce sens qui revient petit à petit finalement sur le devant de la scène, qui retrouve un peu de couleur, on va dire. Mais pourquoi a-t-il été malmené ? Parce que c'était trop proche de notre côté animal, Annick Le Guerrier.
Platon et Aristote ont décrété 5 siècles avant Jésus-Christ que l'odorat était un sens moins noble que la vue et que l'ouïe, parce que en fait, pour eux, ça voulait dire pas utile à la connaissance. Le philosophe Descartes, au XVIIe siècle, dira de l'odorat que c'est un sens ingrat. Kant va être très sévère avec l'odorat parce qu'il dira que c'est un sens ingrat, qu'il est inutile de le développer. Ça fait plaisir aux parfumeurs. Hegel dira que c'est un sens qui ne permet pas la création d'un art, ça fait là encore plaisir aux parfumeurs. Enfin, les critiques ont été très abondantes, on a dit aussi que c'était un sens antisocial. Freud dira que la civilisation n'a pu se développer que grâce au refoulement de l'odorat, parce que nos lointains ancêtres qui marchaient à quatre pattes avaient un odorat très développé près du sol et qu'ils n'étaient capables en fait que de chercher des femelles pour copuler, c'était ça. Et que c'est lorsqu'ils se sont redressés sur leurs deux jambes que leur odorat s'est effacé un peu parce qu'il était moins près du sol et que c'est la vue et l'ouïe qui sont devenus les sens prédominants. Et que là, grâce à ces deux sens, vue et ouïe, la civilisation a pu se développer. Donc vous voyez, toutes ces critiques ont pesé très très fort sur l'odorat. Et le retournement aujourd'hui est complet, hein, parce que l'odorat a été réhabilité par des chercheurs comme Alain Corbin, comme Piero Camporezzi. Moi, je m'y suis attachée aussi à montrer toute l'importance de l'odorat. Aujourd'hui, bon, beaucoup de travaux sur l'odorat apparaissent. Et en 2003, Linda Bock et Richard Axel, des neuroscientifiques, ont eu le prix Nobel de médecine et de physique, oui, pour leurs travaux sur l'odorat. Mais encore, comme je vous le disais, dans les années 80, 90, c'était ce sens apparaissait comme un sens inférieur, sans langage. C'est vrai que le langage de l'odorat est moins étendu que celui de la vue et de l'ouïe.
Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on devrait aussi penser, en tant que parent ou dans le milieu scolaire, on devrait aussi penser à une éducation olfactive ? Vous iriez jusque-là ?
Bien sûr, mais cette éducation olfactive, vous avez raison de pointer cet aspect, parce qu'il est très très important. Elle n'avait pas lieu et elle commence à se développer depuis quelques années. Notamment, il y a une association qui s'appelle Nez en Herbe, qui s'occupe de cela et qui va dans les crèches, dans les écoles primaires, éduquer les enfants à la reconnaissance des odeurs. Ça, c'est très très important, parce que l'éducation olfactive était tout à fait passée sous silence jusqu'alors. Et permettre aux enfants d'éduquer leur odorat, c'est très très important. Oui.
On peut se quitter peut-être avec quelques petits mots de savoir-vivre en matière de parfums, parce que j'ai cru lire que dans certains endroits, les parfums sont interdits. Il y a à la fois une réhabilitation, je veux dire, du sens olfactif, mais en même temps, peut-être qu'on a été trop loin dans la puissance des parfums et que certains endroits, ils ne sont pas les bienvenus.
Ben, ils ne sont pas les bienvenus parce qu'il ne faut pas que votre odeur s'impose à autrui de façon barbare, si je puis dire. C'est-à-dire que ça puisse être gênant. Et aussi, il y a toujours cette crainte concernant le parfum, de substances toxiques dans le parfum, mais les parfums sont très surveillés par des organismes qui veillent à ce qu'il n'y ait aucun ingrédient qui puisse porter atteinte à la santé ou être allergène.
Quelques mots de savoir-vivre, donc on a compris, c'est ce qu'on disait au début de cette émission, il est très délicat, voire quasiment impossible d'offrir un parfum nouveau à quelqu'un. Par contre, s'offrir un parfum, voilà, mais peut-être ne pas en abuser dans l'idée de la modération. Il y a des règles en fait de savoir-vivre en matière de port de parfum.
Il vaut mieux, lorsque on travaille dans un bureau, il vaut mieux garder ce parfum puissant, capiteux, pour le soir. Ça, c'est une règle qui est suivie depuis très très longtemps de façon instinctive par les femmes et les hommes. Ça peut déranger. Mais les parfums, quand même, d'une façon générale, laissent moins de traces et de sillages qu'ils n'en laissaient auparavant, parce que les substances animales ont disparu des formules. Mais malgré tout, la synthèse est moins puissante que les produits animaux.
Pour en revenir à cet amour de la mer, alors on peut lui offrir un parfum, mais est-ce que vous avez en tête une histoire d'un parfumeur qui a créé un parfum pour sa mère, justement, en souvenir de sa mère ou pour sa mère?
C'est plutôt le parfum de la mer qui inspire le parfumeur. Je pense à Jean-Paul Guerlain, qui confiait justement que le parfum de sa mère l'avait guidé vers la parfumerie. Mais créer un parfum pour la mère, c'est en général l'inverse qui se produit. Le parfum de la mère imprègne l'enfant et a une influence sur ses goûts olfactifs.
Mais les créateurs de parfums, alors aujourd'hui vous nous l'avez confié, hein, c'est-à-dire qu'ils créent beaucoup sur commande, on va dire, avec des mots, avec des notes, comme ça on leur dit, il faut que ce soit comme ci, comme ça, pour répondre à une demande purement commerciale. Mais les créateurs, les parfumeurs, créent souvent des parfums par amour.
Bien sûr, et d'ailleurs il y a aussi des parfumeurs indépendants qui créent des parfums sans considération marketing, et qui créent des parfums avec les ingrédients qu'ils aiment et sans se préoccuper des attentes du marché. Bien sûr qu'il y a des maisons de parfums qui vont dans ce sens-là. Ça se développe de plus en plus, ça, justement, cette parfumerie qui se détourne du marketing, parce que les femmes et les hommes sont souvent lassés par la banalité des parfums dictés par le marketing. Créer un parfum, c'est une prise de risque, en fait. Et le marketing cherche à diminuer cette part de risque en faisant un parfum qui réponde au marché. Ben, je crois que le parfum, c'est toujours ce lien à l'autre, un lien d'amour qu'on cherche à faire perdurer. Un lien d'amour à l'autre qu'on cherche à faire perdurer par le parfum, c'est un gage d'amour éternel. Même si on change de parfum, avoir, je le disais tout à l'heure, auprès de soi un parfum qui est porté par l'être qu'on aime, ça maintient toujours ce lien de cet échange, ce lien d'amour. Et c'est un très beau lien, parce que le parfum nous fait voyager dans le temps, il perdure après la mort de la personne. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu cette tentative de mettre en, en flacon les odeurs des personnes que l'on aime, pour garder leur odeur, leur parfum après leur mort. Le parfum est invincible, en fait. C'est un gage d'amour et un gage d'éternité. Si vous offrez à votre maman un parfum qu'elle apprécie, eh bien, après la disparition de votre mère, vous pourrez toujours sentir cette odeur et ça vous rappellera toujours votre mère. Elle sera toujours présente. C'est ce que faisait George Sand avec Alfred de Musset et son parfum au patchouli. Donc, c'est un gage d'amour qui combat la mort et la disparition.
Bah écoutez, ce seront de très beaux mots de la fin. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à Annick Le Guerrer que vous avez écrit sur l'histoire du parfum, le parfum des origines à nos jours, le pouvoir de l'odeur. Ces ouvrages sont parus chez Odile Jacob. Et le dernier co-écrit avec Bruno Fourne, Le parfum et la voix, toujours dans cette même maison d'édition. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup à vous.